don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的牧民达家
正忙着整理房子。
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50, une émission préparée ce matin par Xavier Martinet, mais aussi Clément Salazar, Tiffaine de Rocchini, Hélène Paquet, réalisée par Charles Le Gargasson et mise en onde ce matin par Jacques Hubert. On poursuit notre semaine spéciale sur France Culture consacrée au renouvellement des savoirs. Demain, les savoirs, une semaine qu'on a intitulée « Nous, nouveaux regards sur le djihadisme » et qu'on a construite en écho. Un colloque international organisé par l'Observatoire des radicalisations de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme et l'Institut Montaigne qui se tient en ce moment à Paris. Nous évoquions lundi la question de la transnationalisation de Daesh, hier celle de la radicalisation. Aujourd'hui, on va parler de stratégie militaire, de la clandestinité à la guerre sans fin, les stratégies du djihad.
Ne laissez pas l'armée reprendre du terrain ou seulement sur votre corps mort. Marchez vers la grande ville de Bagdad, Bagdad le califat. Nous avons des dettes à récolter, à leur dire bonjour sur le mur de Bagdad, sans leur donner une chance de souffler, en étant certain de notre victoire sainte.
À partir d'aujourd'hui, je choisirai chaque matin 3 ou 4 d'entre vous pour aller au combat.
L'État islamique se fait par deux choses, la da'wa et le djihad. On appelle et le djihad fait sa bilida. Quand tu es en Afghanistan, tu prends un calage et tu te défends et tu purifies ta terre. Ma nationalité, je suis musulman, c'est ça ma nationalité. La loi que je suis, c'est sharia et je m'en fous de toutes les autres lois.
Vos frères combattants, Dieu leur a donné la victoire après de longues années de djihad et de patience. Pour qu'ils atteignent cet objectif, qu'ils annoncent le califat et qu'ils y installent un calife.
Depuis son apparition sur la scène médiatique internationale, le groupe de l'État islamique a déjà subi bien des évolutions. Son terrain d'action aussi, Mossoul, Tikrit, Sinjar, en prenant ses villes lors d'offensives éclairs début 2014, il a d'abord donné l'impression d'une expansion fulgurante, avec une vitesse et une aisance apparente qui pouvait presque rappeler celle des grandes conquêtes musulmanes du 6e siècle. On a vu les djihadistes foncer en 4x4, abattre les murs de sable de la frontière Saïx-Picô, planter des drapeaux sur tous les postes frontières, s'établir à Raqqa, en bordure du territoire kurde, avant de tenter une percée vers le nord, la frontière turque. Dans le même temps, ces moyens augmentaient de manière spectaculaire, souvent mis en scène, des chars, des missiles Scud dans Raqqa. Mais depuis ces grandes victoires, les choses ont bien changé. Cette semaine, l'armée irakienne a lancé une grande offensive sur Fallujah, cette ville à moins de 100 km à l'ouest de Bagdad, est tenue par l'État islamique depuis janvier 2014. Plus au nord, plus de 5000 Peshmerga marchent désormais vers Mossoul, la capitale irakienne de l'État islamique aux mains du califat depuis 2014 également. Il faut dire qu'entre-temps, la coalition internationale mène des frappes aériennes. Ce qui n'a pas été sans effet. Quoi qu'il en soit, Daesh aurait perdu plus de 30% de son territoire et des milliers de combattants auraient perdu la vie. Ce retournement est-il le signe que la stratégie occidentale est enfin payante? Une stratégie que certains avaient remise en cause et dont on disait que elle ne pourrait pas faire l'économie d'un envoi de troupes au sol. La solution a-t-elle été trouvée pour répondre à la stratégie militaire de l'EI? Et d'ailleurs, quelle est-elle exactement? Comment a-t-elle évolué dans le temps? Quel point de convergence et de divergence par rapport à Al-Qaïda? Voilà un certain nombre de questions qu'on va se poser ce matin. Pour ce faire, on a invité Philippe Migaud. Bonjour Philippe Migaud. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po, auteur de très nombreux ouvrages sur cette question, sur le terrorisme, sur le djihadisme, et notamment cet ouvrage auquel vous avez participé, Le djihadisme, le comprendre pour mieux le combattre, qui était paru chez Plomb. Vous aviez signé avec Farhad Khosrokavar, qu'on recevra demain, et David Benichou. Commençons peut-être avec l'actualité, si vous le voulez bien, Philippe Migaud. L'armée irakienne, je le disais, a lancé, il y a quelques jours, une offensive contre Daesh dans la ville de Fallujah. C'est une ville qui avait coûté, on s'en souvient, tant de vies des soldats américains, mais aussi de civils, lors de nombreuses révoltes, 2003, 2004, et puis plus tard, au début des années 2010. L'EI avait pris le contrôle de Fallujah en janvier 2014. Et là, après avoir éliminé un certain nombre de terroristes, de djihadistes sur le chemin, plus de 200 visiblement vers la ville de Alet, elle est entrée dans Fallujah. Est-ce que Fallujah peut tomber et est-ce qu'il faut y voir, dans cette chute possible, le symbole que l'État islamique a définitivement basculé dans une dynamique de recul sur le plan militaire qu'on observe depuis des mois?
Je crois que ce qu'il faut rappeler, c'est que le financement de l'État islamique, c'est un financement qui se fait par le pillage. C'est-à-dire qu'on finance les services publics, du proto-État par les conquêtes que l'on fait à l'extérieur. Et que le recul de 30% en effet du territoire, que ce soit en Syrie ou que ce soit en Irak, ça a une influence directe sur la capacité à financer les services publics de l'État islamique. On le voit très bien, ils ont perdu, ils avaient en septembre 2014 la capacité de production de 1 500 000 barils le jour. Ils en produisaient grosso modo 80 000. Mais ils gagnaient 1 500 000 dollars par jour. Aujourd'hui, ils en gagnent la moitié. Donc il y a un recul.
Mais ils ont placé entre-temps.
Ils en ont placé, mais je veux dire, il y a les dépenses du quotidien. Donc, le premier problème, c'est qu'à mon avis, les frappes ont cet effet qu'ils vont réussir à assécher l'État islamique et finalement à le faire imploser. Ceci dit, le problème, c'est pas simplement détruire la sanctuarisation de l'État islamique. Ça va être remplacer l'État islamique par un nouvel ordre de gouvernance qu'on n'a pas encore trouvé. Parce que pour faire cohabiter des populations qui sont dans un état de ressentiment violent et religieux depuis une dizaine d'années, il faut trouver un nouvel ordre politique, et là, la coalition, pour l'instant, n'est pas en place.
On est évidemment d'accord pour dire que le véritable défi, il est politique. Mais ça veut quand même dire, et c'est pas rien, que la victoire militaire est désormais possible.
La victoire militaire, elle est désormais possible. Et Mohamed Al-Adnani, dans son discours du 22 mai dernier, il l'a anticipé en disant « C'est pas parce que nous perdons des villes que vous allez nous détruire. Nous continuerons notre travail ailleurs. » Et c'est pour ça que l'État islamique a copié, je dirais, le mode de stratégie combattante à l'extérieur d'Al-Qaïda depuis, grosso modo, septembre 2014.
On a beaucoup dit, Philippe Migaud, que la stratégie des djihadistes était d'intensifier leurs actions à l'extérieur du califat quand ils étaient en difficulté dans les zones qu'ils contrôlent. Est-ce que ça veut dire, première question, qu'il faut s'attendre à des actions, à des attentats, justement, à l'extérieur du califat? Ce qui va nous permettre peut-être d'évoquer, justement, l'analyse, finalement, des rapports de force qui sont en présence aujourd'hui.
Oui, les attentats, ils ont commencé depuis longtemps. Je veux dire, quand ils attaquent le Bardo ou qu'ils attaquent Sousse, on est évidemment dans une frappe contre les intérêts occidentaux par rétorsion. Depuis septembre 2014, ce que l'on peut remarquer, c'est que ce califat qui s'appuyait sur un sanctuaire, le territoire syro-irakien, a accepté l'allégeance d'une quinzaine de provinces. En septembre 2014, c'était l'Algérie, c'était la Libye, c'était l'Égypte, c'était l'Arabie Saoudite, c'était le Yémen. Ensuite, vous avez eu, en octobre 2014, vous avez eu l'intégration d'une nouvelle province dans le fief d'Al-Qaïda, dans la zone afghano-pakistanaise, là où il y a Khorasan. En mars 2015, vous avez eu l'intégration de Boko Haram au Nigeria. Et aujourd'hui, on en a une quinzaine de provinces qui jouent le rôle d'organisation régionale. Parmi ces provinces, la plus importante, c'est la province libyenne. Pourquoi ? Parce qu'elle a été désignée dès mars 2015 comme un nouveau sanctuaire pour l'État islamique où les volontaires maghrébins ou européens qui ne pourraient pas rejoindre le territoire syro-irakien étaient appelés à se rendre. Et la Libye doit servir à la fois de tête de pont pour conquérir l'Afrique et de base de projection pour lancer de nouvelles attaques d'ampleur sur le territoire européen.
Je reviens encore à Fallujah. Visiblement, il y a un millier de combattants de l'EI qui seraient en fuite, mais dans le même temps, il y a un certain nombre de djihadistes qui sont restés sur place, qui prennent en otage les populations civiles qui sont encore très nombreuses dans la ville de Fallujah. Comment comprendre cette stratégie ? On fuit et en même temps on résiste. Parce qu'on est en fait entre, disons, la guerre conventionnelle, et je mets des guillemets, en tout cas d'État à État, d'armée à armée, et puis mais la guérilla, c'est-à-dire le harcèlement, c'est-à-dire les avancées, les reculs, etc. On est dans deux formes finalement de lutte différentes là.
Il faut revenir,
de logique.
Il faut revenir à la notion de rapport de force. La notion de rapport de force, bon, grosso modo, il y a trois cas. Le premier cas, c'est vous avez un État qui attaque un État, ça s'appelle la guerre, c'est la continuation de la politique par tous les moyens. Mais pour que la guerre joue son rôle complet dans les relations internationales, c'est-à-dire la fondation d'un nouvel ordre politique, il faut trois éléments. Le premier élément, c'est il faut que le rapport des forces soit clairement bouleversé sur le terrain. Le deuxième, que le vainqueur proclame sa victoire. Mais le troisième, c'est que le vaincu reconnaisse sa défaite. Or, dans l'Irak de 2003, vous n'avez pas vous n'avez pas ce phénomène. Vous avez bien un rapport de force bouleversé sur le terrain. 150 000 soldats de l'armée américaine sont tués contre quelques dizaines de combattants occidentaux. Vous avez le président Bush qui se déplace sur un porte-avions pour dire mission accomplie, mais Saddam Hussein refuse la défaite. Et ces cadres de sécurité, ces chefs de l'armée qui ont été jetés hors de l'administration par les Américains, interdits de travailler, ils s'engagent dans une action de résistance à mort contre les Américains et contre la nouvelle domination chiite. Deuxième cas de figure, vous avez un groupe qui attaque un État et ce groupe dispose du contrôle d'une partie du territoire et dispose de la sympathie d'une partie d'une population. Il va faire de la guérilla de façon à, dans le temps, se construire en proto-État et pouvoir montrer qu'il a une légitimité devant la communauté internationale. Et il va construire des zones libérées. Ces zones libérées vont servir à trois choses. La première chose, c'est de transformer ces guérilleros en une armée combattante et disciplinée qui va servir de porte-étendard à l'idéologie. La deuxième chose, c'est d'imposer l'idéologie aux gens. On vous dit toujours que gagner les cœurs et les esprits, c'est la doctrine de la contre-insurrection. Moi, je vous dis, c'est d'abord la doctrine de l'insurrection. Et gagner les cœurs et les esprits, c'est pas gentil. Gagner les cœurs, c'est s'adresser à l'affect. Ça veut dire que si vous venez avec nous, on va vous fournir un avenir bien meilleur par la restauration de l'ordre public, par l'instauration des services publics. Mais gagner les esprits, c'est s'adresser à la raison et dire que si vous venez pas avec moi, on va vous faire tellement souffrir que vous allez regretter toute votre vie de ne pas nous avoir rejoints. Et ça, aujourd'hui, c'est le rôle des tribunaux islamiques, comme c'était le cas des tribunaux populaires dans les régimes marxistes. Le tribunal islamique, eh bien, il fait tuer un certain nombre de gens. Il donne des exemples. Il y a 18 manières de tuer des gens qui contestent l'autorité dans le code chariatique de l'État islamique. Mais surtout, il impose d'effroyables amendes aux gens, ce qui les terrorise. Et donc, il y a une idéologie qui est forcée. Et la troisième chose qui est importante pour l'avenir, c'est qu'ils vont récupérer la jeunesse. Parce que ce que veulent les familles pour s'intégrer, c'est qu'il y a un avenir pour la jeunesse. Construction de dispensaires, construction d'écoles. Mais cette jeunesse, ils la transforment en une jeunesse fanatique et radicalisée, ce qu'ils appellent les jeunes lionceaux de l'islam, dans leur madrasa. Et ça va poser un vrai problème. Dernier point, si vous avez un groupe qui attaque un État, mais qui n'a pas de soutien de la population, ben il ne peut faire que des actes de terreur pour espérer de récupérer dans le temps des sympathisants. Donc on a une grille de lecture qui est simple, guerre, guérilla, terrorisme, et en même temps il y a des exceptions. Première exception, c'est que le terrorisme a toujours été un acte de substitution ou de complémentarité de la guérilla. Au 1er 2009, en Afghanistan, Petraeus arrive auréolé du sursaut irakien, et il met en place une véritable technique de contre-insurrection dont se félicite Issa parce que pendant 2 mois, vous n'avez plus d'avancée. Les talibans, et même ils reculent. Et puis, au bout de 2 mois, dans toutes les villes d'Afghanistan, vous avez à Kunduz, à Mazar-e-Sharif, à Jalalabad et puis à Kaboul, des attentats. Et là, les populations qui n'ont pas vu un taliban depuis 2001, ils se rendent compte que non seulement ils existent toujours, mais ils sont à côté d'eux. Donc, c'est un échec de la contre-insurrection par le terrorisme. Et puis, la deuxième idée, c'est que le djihadiste, en fait, il profite de toutes les opportunités du terrain pour agir en terrorisme, en guérilla et en guerre quand ils le peuvent.
On va revenir évidemment sur toute cette question des rapports de force et cette distinction guerre, guérilla, terrorisme, parce qu'il y a un certain nombre de cas qui peuvent illustrer tout ça, et notamment la prise de Mossoul de 2014. Mais d'abord, revenons sur ce recul de Daesh. On est désormais dans une phase de recul sur le plan militaire. On a vu des djihadistes perdre Ramadi, Tikrit en Irak, on a vu Kobané, dont on parlera tout à l'heure, Palmyre du côté de la Syrie. Depuis l'été 2014, clairement, on a eu, bien sûr, l'entrée de cette grande coalition arabo-occidentale, essentiellement évidemment conduite par les Américains, qui a été lancée contre Daesh. Est-ce que le recul de Daesh, il est essentiellement lié aux frappes aériennes occidentales? Et du coup, est-ce que ça veut dire que l'option des frappes aériennes était la bonne option?
Il est clairement lié aux frappes occidentales. Et l'option, à partir du moment où on ne veut pas mettre de troupes au sol, elle était la seule. Donc le succès des bombardements, il est réel. À côté de ça, il faut revenir quand même sur les reprises. Prenez Tikrit, il y a de ça un an. Tikrit a été repris, ça a pris du temps, tout simplement parce que il s'accroche à la ville. Une chose qui me paraît extrêmement importante, c'est de comprendre pourquoi l'État islamique a pu, après les bombardements, revenir à des formes de guerre complète. Parce qu'il a pris en otage les populations. Et qu'ils sont installés dans des hôpitaux, ils sont installés dans des mosquées, où là ils prennent en otage les populations. Ils ont pris des populations yazidis, les ont réinstallés dans les villages le long de la frontière avec le Kurdistan pour empêcher les bombardements sur les postes avancés de l'État islamique. Et puis dans les madrassas, c'est encore pire. Dans les écoles, ce sont des enfants qui sont volontaires pour être des boucliers humains contre. Donc il y a une difficulté aujourd'hui à prendre les villes parce que vous avez ce bouclier humain des populations qu'ils récupèrent. Et ensuite, quand ils s'en vont, ils piègent. Tikrit, il a fallu 6 mois pour déminer la ville. Et puis la troisième chose, c'est que Tikrit, la ville est reprise, mais les populations sunnites, elles sont inquiètes de ce que peuvent leur faire les populations, les milices chiites qui ont pris la ville, et elles ont eu du mal à revenir.
Je disais qu'il y avait de la frappe aérienne, qu'il n'y avait pas de troupes au sol. C'est presque vrai, c'est-à-dire qu'on a aussi envoyé quand même des conseillers militaires sur place.
Oui.
C'est marginal ou ça a eu son importance?
Ça a son importance, parce que ces gens-là sont dans un rôle de conseil et de formation qui est extrêmement utile. À côté de ça, ce ne sont pas eux qui font le travail sur place. Ce sont bien les Irakiens, ce sont bien les Kurdes, ce sont bien les Syriens de Kobané, etc.
Alors justement, il y a quelques mois, on se moquait presque de l'armée irakienne, tant elle était désorganisée, incapable de contenir l'avancée de l'État islamique. Aujourd'hui, voilà qu'elle redevient une armée, en tout cas, regardons du côté de Fallujah, capable de faire front, capable d'avancer, peut-être même de regagner, qui est quand même une très grande ville, tout près de la capitale. Alors, de deux choses l'une, soit l'armée irakienne s'est totalement transformée, soit on a eu une lecture, une analyse de la situation qui était fausse.
Non. D'abord, en un an et demi, l'armée irakienne a été reformée. Mais quand on dit on reforme 10 000 personnes. Ce sont pas des effectifs gigantesques par rapport à l'ensemble de l'armée irakienne. Vous avez des petits effectifs qui sont engagés dans les combats. Et ces effectifs sont engagés aux côtés de troupes dont, je dirais, l'appartenance est difficile à étudier pour l'avenir, parce que vous avez des milices turkmènes, vous avez des milices chiites iraniennes, vous avez des soldats iraniens. Donc, je veux dire, c'est un ensemble de troupes qui, pour l'instant, ont un objectif commun, mais demain, quand elles auront pris les villes, eh bien, elles vont essayer de gagner chacune leur...
D'accord, donc l'armée irakienne, qui est aujourd'hui soutenue par les unités de mobilisation populaire, les Hashd al-Shabi, c'est-à-dire cet ensemble de milices chiites qui ont été structurées par le gouvernement irakien depuis 2014, sans ces milices-là, l'armée irakienne, aujourd'hui, ne pourrait rien.
Pas qu'elle pourrait rien, c'est qu'elle donne un rôle d'appoint qui est essentiel.
Décisif.
Justement... Ça pose des questions pour l'avenir parce que la problématique irakienne, elle est augmentée par le phénomène tribal. Et ça, on ne peut pas le changer.
Alors justement, parce que très récemment, il y a un commandant, de ces unités de mobilisation populaire qui a fait allusion au bombardement américain, laissant entendre qu'elles en avaient été la cible. Il a dit, ce n'est pas la première fois que les forces de la coalition anti-Daesh commettent de tels crimes et les qualifient d'erreurs. Alors il faut encore deux hypothèses. Soit les avions américains ont vraiment pris pour cible les milices chiites, et si c'est le cas, pourquoi? Et si c'est pas le cas, ça veut dire qu'on a un problème d'information, un manque de coordination entre le gouvernement de Bagdad et Washington.
On a peut-être aussi un manque d'information entre les milices chiites et le gouvernement de Bagdad. Puis le problème...
Ah oui, c'est vrai.
Et puis, bon, dans une guerre, vous avez toujours des bavures. Ça veut pas dire que les Américains ciblent les milices chiites iraniennes pour leur faire des avertissements.
Alors, je change la question. Alors, le regard de Washington, justement, sur la participation de ces milices chiites dans la lutte contre Daesh?
Elle s'inquiète. Mais en même temps, le problème, pour l'instant, c'est d'assécher l'État islamique. Et donc, il faut utiliser toutes les forces possibles. On a très bien vu la manière dont les Américains ont réagi en Syrie à l'intervention russe. Un grand discours diplomatique. Mais finalement, ça a permis d'augmenter le niveau des frappes occidentales sur le territoire syrien.
D'accord. Mais pour l'instant, on ne voit pas de raison. Washington n'a pas de raison, pour le moment, de prendre pour cible les milices chiites.
Non. Bien sûr que non.
Ils ont des intérêts.
Ils sont des alliés objectifs.
Absolument. Alors, pour comprendre la stratégie de Daesh, on va revenir à la prise de Mossoul, 2014, juin 2014. L'État islamique s'allie à un certain nombre de tribus et de groupes armés sunnites de la région et lance une offensive sur la ville de Mossoul. En quelques jours, la ville va être prise.
Les forces armées ont rendu les armes et les officiers ont pris la fuite quand les affrontements ont démarré. Ils ont abandonné leurs munitions, leurs véhicules et leurs positions, les laissant aux mains des terroristes. Ils ont même déserté l'aéroport de Mossoul et leurs avions.
Nous devons nous mobiliser totalement et rester en alerte dans tous les domaines politiques, financiers. Avec le peuple, nous devons vaincre le terrorisme et revenir à une vie normale dans toutes les zones occupées par les terroristes, à Mossoul comme ailleurs.
Et malgré les appels de Nouri al-Maliki qu'on entendait à l'instant, l'ancien premier ministre irakien, bien la ville est toujours aux mains de l'État islamique. La prise de Mossoul, c'est une bonne vitrine, entre guillemets, une bonne illustration justement pour comprendre cette stratégie de l'État islamique.
Oui, d'abord parce qu'elle montrait la corruption du régime al-Maliki. On vous annonçait 38 000 soldats qui étaient présents sur place. En fait, les chefs d'unité gardaient une partie de la paye de gens qui étaient absents et vous aviez certainement moins de 12 000 soldats qui étaient en fait vraiment présents sur place.
Ce qui explique que beaucoup sont partis.
Ce qui explique qu'ils étaient beaucoup moins nombreux. Mais pourquoi ils sont partis? C'est simplement parce que vous aviez une stratégie de terreur de la part d'État islamique qui a parfaitement fonctionné. D'abord, ils vous envoient des tas de cassettes vidéo où ils vous montrent des soldats irakiens décapités ou abattus d'une balle dans le dos. Et puis ensuite, ils vont vous introduire discrètement des snipers et des combattants revêtus de gilets explosifs dans la ville qui vont se fondre tranquillement par des réseaux dormants. Et puis, vous avez deux jours de bombardement intense. Et quand les types sortent la tête hors du trou, ben là, le type qui est à côté, il prend une balle dans la tête par un sniper. Vous avez à 300 mètres un checkpoint qui saute avec un porteur de gilet explosif. Donc, une panique immédiate et les gens s'en vont. Remarquons aujourd'hui que l'État islamique a des capacités de terreur encore plus importantes parce qu'ils ont aujourd'hui les gens qui attaquent des checkpoints, ce sont plus des petits véhicules, ce sont des Humvee qui sont chargés de 3 tonnes d'explosifs ou des camions citernes blindés avec des plaques de métal extrêmement épaisses et qui vous amènent 10 tonnes d'explosifs qui font des dégâts considérables. Donc il y a une vraie capacité de déstructuration de la part de l'État islamique.
Une capacité de destruction. Est-ce que on peut dire d'une certaine manière que il y a dans la stratégie militaire de l'État islamique quelque chose de nouveau, de novateur? Ça peut paraître étrange d'utiliser ce terme, mais est-ce qu'elle a apporté quelque chose de nouveau dans les combats armés? Vous parliez là de véhicules bourrés d'explosifs. Est-ce que ça, d'une certaine manière, c'est une forme d'innovation dans la barbarie?
Oui, mais je crois que
dans la stratégie militaire.
Le terme que vous utilisez correspond parfaitement à la réponse à votre question. Ils ont instauré le retour de la barbarie dans le conflit militaire. C'est-à-dire pas de rémission pour l'ennemi. La seule solution pour l'ennemi, c'est de s'enfuir. C'est même pas de se rendre. Donc, ce qu'ils ont réussi à faire, et ça c'est par une propagande extrêmement théâtralisée, ils ont transformé, je dirais par la brutalité des messages, par la violence des images, ils ont transformé la barbarie en épopée. Et cette barbarie en épopée, elle terrorise les populations qui en sont victimes, et les gens qui en sont les sympathisants, ils considèrent aujourd'hui qu'ils sont la population désignée, la communauté désignée par Dieu pour régner sur la terre. Donc on est dans un vrai message de combat total dont on n'avait plus l'habitude dans les 50 années précédentes.
Ils ont transformé la barbarie en épopée. Le chef des groupes affiliés à Al-Qaïda en Irak, Abu Musab al-Zarqawi, on le sait, il est à l'origine de la création de l'État islamique. Il avait participé à la création dès 2006 du Conseil consultatif des Moudjahidines en Irak, qui regroupait alors plusieurs groupes armés. Et dès 2004, en fait, il avait élaboré l'agenda combattant de l'État islamique. Est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler les différentes grandes phases, les grands principes, justement, de cet outil stratégique, d'une certaine manière?
Oui. L'agenda, en fait, il comprenait 5 phases. La première phase, c'était rallier des combattants venus du monde entier dans une nouvelle égire. Le besoin, c'était d'obtenir une nouvelle légitimité en ayant de l'argent de riches donateurs extérieurs et en ayant des combattants étrangers. Et ça posait un problème important pour Abu Musab al-Zarqawi qui n'avait aucune légitimité internationale. D'où la raison pour laquelle il commence par des attentats contre les communautés chiites qui sont extrêmement, extrêmement durs et par des décapitations de prisonniers comme Nicolas Berg. La deuxième chose, ça va être justement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'alliance anti-chiite en réussissant à fédérer les organisations de résistance sunnite qui n'étaient pas djihadistes et qui étaient dirigées par des anciens des services de Saddam Hussein. C'est la création du Conseil consultatif des Moudjahidines d'Irak et puis la création, quelques mois plus tard, en octobre 2006, de l'État islamique d'Irak. La troisième phase, ça a été la déstructuration du régime irakien. Et là, au début, ça s'est mal passé pour l'État islamique. Ça s'est mal passé tout simplement parce que le général Petraeus, qui était à l'époque en Irak, a fait ce qu'on appelle le sursaut. Il a recruté des milices, les Chawa, 100 000 personnes, qui étaient payées $100 par mois et auxquelles on promettait 3 choses. La première chose, c'est qu'ils seraient intégrés dans l'armée ou dans la police. La deuxième chose, c'est qu'il y aurait du service public dans les zones sunnites. Et la troisième chose, c'est qu'il y aurait une représentation politique sunnite au niveau du gouvernement. Et l'autre avantage qu'a obtenu Petraeus, ça a été qu'il a réussi à obtenir de la Syrie la fermeture avec la fermeture de la frontière irakienne, ce qui a empêché les combattants et les financements de passer. Vous aviez grosso modo en 2009 1500 membres de l'État islamique en Irak, ce qui était plus grand chose, et les réseaux logistiques qui étaient en Syrie étaient devenus des réseaux dormants. Le problème, c'est que le régime al-Maliki n'a pas du tout tenu la promesse des Américains. Ils n'ont pas intégré les Chawa au sein de la police et de l'armée. Ils n'ont pas fait de service public dans les provinces sunnites qui se sont retrouvées abandonnées. Alors, elles se sont rébellées. Et là, vous avez eu l'envoi de forces chargées de les réprimer. C'est extrêmement violent. Et puis, vous avez eu un seul représentant politique sunnite. C'était le vice-premier ministre qui, au bout de 3 mois, est accusé de terrorisme et est obligé de partir en Syrie. Donc, là, les djihadistes en ont profité. Ils en ont profité parce qu'ils ont créé une stratégie du chaos, comme dans le livre « La gestion de la barbarie », et ils ont offert une offre de protection. Ils ont proposé une offre de protection aux tribus qui se sont ralliées et les tribus leur ont apporté ce qui leur manquait, des capacités de financement à long terme. Les tribus sunnites avaient reçu de Saddam Hussein en 1991 le monopole de la contrebande de pétrole pour leur maintenir en rang. Ils l'ont donné à l'État islamique. La quatrième phase, ça a été la période de la régionalisation du combat et de la conquête. Ça, ça a été obtenu comment? Ces fameux réseaux logistiques en Syrie dont on parlait tout à l'heure, ils sont pas restés inactifs. En décembre 2011, quand vous avez eu le début, la rébellion en Syrie, eh bien, vous avez ces groupes qui se sont formés en unités autonomes, selon Jabhat al-Nusra, et qui se sont, au fil du temps, intégrés comme une des principales composantes de la rébellion. Deux ans plus tard, Jabhat al-Nusra, eh bien, l'État islamique d'Irak revendique la paternité de ces opérations. Et c'est exact, mais les hommes sont oubliés de reconnaissance. Et le chef de Jabhat al-Nusra, il dit non, nous on est en Syrie, on est une organisation syrienne. D'ailleurs, on va demander l'avis à Al-Qaïda. Al-Qaïda est très content de remettre un peu d'ordre avec cet État islamique qui a toujours été un peu contestatif. Et il dit non. Jabhat al-Nusra, c'est la Syrie, c'est nous. Et puis vous êtes simplement en Irak. Et à partir de ce moment-là, c'est la rupture avec Al-Qaïda. Abou Bakr al-Baghdadi se lance dans une politique de conquête. Et en l'espace de quand même moins d'un an, juin 2014, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, il prend un territoire grand comme la Grande-Bretagne. Il conquiert 8 millions d'habitants. Il installe un proto-État et il peut arriver à la création du califat.
Et la cinquième étape, cinquième et dernière étape. Juste un point avant de revenir sur Kobané dans un instant avec un nouvel invité, Patrice Franceschi, qu'on va recevoir par téléphone. L'un des éléments sur lequel s'est appuyé Daesh justement pour déployer cette stratégie combattante de l'État islamique, c'est faire des chiites l'ennemi commun, la fameuse alliance anti-chiite dont vous parliez. Est-ce que précisément cette opposition aux chiites, c'est pas ce qui a limité l'expansion de Daesh? C'est finalement parce que l'État islamique s'est montré incapable d'unifier l'ensemble du monde musulman, cette fameuse Oumma, cette communauté, qu'elle soit réelle ou fantasmée des musulmans, avec évidemment dans l'imaginaire cette bataille finale du côté d'Abyk, à côté d'Alep, mentionnée par un hadith du prophète qui serait le lieu de la confrontation finale entre musulmans et chrétiens. Est-ce que c'est pas précisément parce qu'on n'a pas su se mettre dans cette perspective-là que finalement l'État islamique n'est pas parvenu à s'étendre davantage?
Alors, oui et non. C'est-à-dire que la différence entre Al-Qaïda et l'État islamique, c'est qu'il s'appuie sur deux fractures différentes du monde musulman. Al-Qaïda s'appuie sur la fitna, la discorde dans l'islam. Il considère qu'il faut renverser les mauvais princes qui gouvernent parce qu'ils ne sont pas dans les lois de l'islam. Mais Al-Qaïda ne voulait pas lutter contre les chiites en 2001 pour deux raisons. La première raison, c'était parce que ils espéraient qu'à un moment donné, ils pourraient faire le lien entre la radicalité chiite et la radicalité sunnite pour combattre les ennemis de l'islam. La deuxième chose, c'est que vous aviez quand même à peu près un tiers des cadres d'Al-Qaïda qui, au lendemain de l'offensive sur l'Afghanistan, se sont réfugiés en Iran, étaient en résidence surveillée, qu'il ne fallait pas se frotter avec les Iraniens. Et d'ailleurs, dans une lettre envoyée dès juillet 2005 par Ayman al-Zawahiri à Abou Moussab al-Zarqawi, il dit « Fais attention avec les chiites, en effet ce sont des mauvais musulmans, mais nos populations l'ont oublié, il faut travailler dans le temps, il faut leur expliquer. » Et même chez les chiites, on peut les ramener à la conversion. Ce que la force de Abou Moussab al-Zarqawi, c'est d'être intervenu sur une fracture en islam qui n'existait finalement plus que dans les relations internationales. C'était réapparu avec, en 1979, l'arrivée de la République islamique d'Iran qui contestait le leadership religieux sur la radicalité de l'islam par l'Arabie saoudite. Donc, en s'intégrant dans ce jeu de grande puissance, en s'intégrant dans ce phénomène de relations internationales, eh bien, d'une certaine manière, Abou Moussab al-Zarqawi réussit à jouer la modernité.
France Culture, Culture Monde par Florian Delorme.
Culture Monde cette semaine, ces nouveaux regards du djihadisme, aujourd'hui de la clandestinité à la guerre sans fin, les stratégies du djihad, on était avec Philippe Migaud. On va retrouver un nouvel invité dans quelques instants. On va revenir sur la bataille de Kobané, troisième ville kurde de Syrie, devenue le symbole de la résistance face à Daesh.
Le fruit de cet entraînement dans les camps, c'est de faire le djihad pour Allah. Il y a vos frères en Palestine qui vous attendent avec patience. Et ils vous attendent pour se battre avec vous contre les Américains et les Israéliens.
Voilà, tout petit problème technique, c'est pas le bon son que nous venons d'envoyer, c'est Ben Laden à l'instant, mais on en parlera tout à l'heure peut-être pour faire un parallèle entre l'État islamique et Al-Qaïda. Donc, je disais donc, Kobané, troisième ville kurde de Syrie, le symbole de cette résistance face à Daesh.
Quand je suis entré dans Kobané en avril, j'ai regardé autour de moi, j'étais tellement mal. Je n'arrivais pas à me contrôler, je pleurais. Ici, j'avais deux boutiques de tissus, une sur la rue principale, on ne voit plus rien. Et l'autre, elle était par là, mais c'est tout ce qui reste. Tout a brûlé. Ces boutiques faisaient vivre 18 personnes, tous mes proches. Maintenant, il n'y a plus rien. Combien de temps tu es resté chez eux déjà ?
5 mois et 1 jour.
Quand on est parti en Turquie, on l'a laissé derrière nous. Il était encore aux mains de Daesh qui a tué des centaines de civils à Kobané. On s'est dit qu'on ne le retrouverait plus.
Il nous disait que l'on n'était pas de vrais musulmans, que l'on ne connaissait rien à l'islam. Il disait « on va vous remettre sur le droit chemin ». Et aussi, vos proches non plus ne connaissent rien à la religion. Il nous demandait d'apprendre par cœur le Coran en nous menaçant de nous punir ou de nous torturer. Il y avait beaucoup de torture.
Bonjour Patrice Franceschi.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes écrivain voyageur, officier de réserve et puis auteur de cet ouvrage « Mourir pour Kobané » qui était paru l'année dernière chez Équateur. Vous êtes un défenseur de la cause kurde depuis longtemps. Vous plaidez notamment pour l'ouverture d'un centre culturel francophone au cœur du Kurdistan syrien, le Rojava, pour contrer l'influence idéologique de l'État islamique. On en parlera tout à l'heure. Et puis par ailleurs, c'est ouvert. Peut-être que je vous demanderai votre réaction sur ce point. Il y a quelques jours, un office de représentation justement du Rojava à Paris. Ce livre, c'est le récit de 2 années durant lesquelles vous avez accompagné les Kurdes de Syrie, vous avez suivi les combats depuis l'extérieur de la ville, qui, rappelons-le, en septembre 2014 s'est retrouvé totalement assiégé. Le titre de votre livre, Mourir pour Kobané, évidemment, ça fait écho à un célèbre article de Marcel Déard, 1939, Mourir pour Danzig, point d'interrogation, qui est un homme politique qui avait plaidé, lui, pour l'abandon de la Pologne qu'il était prêt à laisser aux mains des nazis. C'est d'ailleurs un homme qui a fini par collaborer, tout simplement, avec les nazis pendant la guerre. Quel lien est-ce que vous établissez entre Danzig et Kobané? Finalement, pourquoi est-ce qu'il fallait mourir pour Kobané?
Simplement parce que, comme à Danzig, c'est une guerre qui nous concerne tous. Dans le discours de l'État islamique, il n'y a pas seulement une dimension, enfin tout le monde le sait maintenant, une dimension locale ou régionale, mais une dimension internationale et mondiale. Bon, par conséquent, ça revient à peu près, sans faire de faux parallèles, mais simplement d'un point de vue de l'image, cela est très significatif, cela revient exactement nos doutes quant à défendre les Polonais à Danzig en 1938, quand Hitler voulait étendre le Reich et que Danzig coupait l'Allemagne en deux. Voilà. Donc c'est, mais vous remarquez que mourir pour Kobané, il n'y a pas de point d'interrogation. Mmh. C'est une guerre qui nous concerne tous et que vous avez parlé tout à l'heure de ce centre culturel francophone que, à la demande des Kurdes, j'essaie de mettre en place à Rojava, le Kurdistan syrien. Simplement parce que c'est une guerre dont les idées sont centrales. Les idéologies sont centrales dans ce type de guerre, qui sont des guerres existentielles. C'est en tout cas comme ça que les Kurdes le vivent, et c'est la raison pour laquelle ils se battent si bien. Et que par conséquent, en ayant une vue surplombante du problème, et pas seulement moyen-oriental, on voit bien, et au moins j'espère qu'on l'a compris depuis les attentats de novembre, si ce n'est celui de janvier, que ça nous concerne directement. Nous avons les mêmes ennemis que les Kurdes. C'est comme ça, et nous combattons la même idéologie.
Patrice Franceschi, je vais rappeler quand même quelques éléments sur cette bataille de Kobané. Donc les djihadistes encerclent la ville en septembre 2014, ils atteignent le cœur de la ville courant octobre, et puis le front va se stabiliser, les YPG, les forces syriennes kurdes vont parvenir à contenir les assauts de l'État islamique. Après plusieurs semaines de lutte, ils les chassent hors de la ville, on est en janvier, et puis quelques semaines plus tard, en juin, les forces kurdes du canton de Kobané et celles du canton de Sigir, venues lui de l'Est, se rejoignent près de Talabiyad, libérant finalement l'ensemble de la zone. On sait que l'appui aérien a été très important, une grande aide pour ces forces kurdes au sol. Si je mets justement les frappes aériennes de côté, sur le plan du matériel, vous qui étiez à leur côté à ce moment-là, quel était le rapport de force?
Le rapport de force, je l'ai vu évidemment s'inverser, et il se trouve que j'étais sur le terrain à ce moment-là, en juillet, entre juillet et août 2014, après que l'armée irakienne se soit débandée à Mossoul et que les djihadistes aient récupéré le matériel américain de cette armée est immédiatement transféré sur la zone syrienne pour attaquer les Kurdes. Entre les mois précédents et les allers-retours que je faisais, et le juillet-août, j'ai vu arriver sur les zones de front kurdes, en face des Yapageh, ce qu'il n'y avait pas avant, de l'artillerie, des blindés, des gros mortiers, des véhicules, qui faisaient que les Kurdes, on en reviendra tout à l'heure à ça pour expliquer pourquoi ils ont gagné, étaient en train de regarder ça en se disant « Putain, maintenant ça va être dur ». Jusqu'à présent, les forces numériques n'étaient pas équilibrées, elles étaient plutôt du côté des islamistes, mais militairement, c'était Kalachnikov contre Kalachnikov, 12-7 contre 12-7. Maintenant, ça va énormément changer. Ils ont tenu le choc entre août et septembre, formidablement dans à peu près toutes les zones qu'ils tenaient dans le canton de Jizzireh, donc à l'est de Rojava, le Kurdistan syrien, et ensuite tout s'est reporté sur la poche de Kobané. Les djihadistes ont bien compris qu'une poche, ça peut s'encercler, que derrière cette poche, cette frontière était tenue par les Turcs, leurs alliés, de fait, et que par conséquent, l'encerclement était complet. La garnison à l'époque était d'environ 3000 hommes et femmes. Je rappelle que 30% environ des combattants Yapageh sont des femmes, les Yapaja. En ajoutant les civils kurdes qui ont pris les armes pour soutenir les combattants réguliers, peut-être 5 000, à peu près 5 000 combattants et combattantes.
Patrice Franceschi, vous qui étiez sur place, la question que je me pose, c'est la suivante. Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait véritablement un commandement organisé, hiérarchisé, unifié, avec à sa tête une personne clairement identifiée, ou est-ce que c'était plus disparate que ça?
Il y a une unité complète des Yapageh, complète. Ce sont des combattants qui, depuis les époques turques et irakiennes, combattaient de manière guérilla et donc de manière assez clandestine, et qui n'offrent pas publiquement leur modèle de commandement. Mais je peux vous assurer qu'il est extrêmement vertical, qu'un ordre donné à l'extrême est de Rojava pour l'extrême ouest est exécuté immédiatement, et que l'une des raisons pour lesquelles les Yapageh, les Kurdes de Syrie, ont gagné, ça a été cette organisation, proprement militaire, mais adaptée au terrain, et en même temps une très grande discipline, ce qui fait une énorme différence, en fait, et en réalité, avec les combattants islamistes qui viennent de tous les côtés, qui sont pas très ordonnés, et surtout pas aussi unifiés.
Philippe...
Donc, l'unité générale des Yapageh est une réalité. Ensuite, c'est divisé en cantons. Mais c'est comme si on disait une première division à Jizzireh, deuxième division à Kobané, troisième à Ifrin.
D'accord, donc une véritable unification qui a peut-être joué en faveur des Peshmerga. Philippe Migaud, je voudrais vous entendre. En quoi est-ce qu'il vous semble que la victoire de Kobané a modifié les choses, à la fois sur le plan militaire, sur le plan stratégique, bien sûr, mais aussi sur le plan politique?
Déjà, elle a montré que ce n'était pas par les acteurs centraux qu'on arrivait à trouver une solution. Et je pense que ce que dit Patrice, et je le salue au passage, c'est en effet cette unité de commandement qui a été réussie par les Yapageh. L'autre chose qui me paraît importante, c'est qu'à l'époque, l'État islamique est dans une dynamique de conquête. Et cette dynamique de conquête, elle a été permise par ce matériel que l'on a vu apparaître avec la conquête de Mossoul. Grosso modo, ils avaient récupéré 40 chars lourds, 80 blindés légers, des porte-missiles, des véhicules blindés porteurs de lance-roquettes. Ils avaient récupéré à peu près 80 obusiers, 150 pick-up avec des mitrailleuses ou des canons de 20, et puis surtout 3000 hommes vie pendant la bataille de Mossoul, qui étaient des véhicules dont une partie ont été transformés en véhicules suicides, avec des charges de 3. Bon, quand on est sur Kobané, on est dans cette victoire de ce matériel. Aujourd'hui, une grande partie de ce matériel a été détruit dans les combats ou dans les bombardements de la coalition.
Patrice Franceschi, un tout dernier mot. Je le disais il y a quelques jours, c'était le 23 mai dernier, c'est ouvert à Paris l'office de représentation du Rojava.
Qu'est-ce que... du Rojava en France, pour être très précis.
L'office de représentation du Rojava.
Non, représentation du Rojava en France.
Alors, j'ai vu la plaque, c'est l'office de représentation du Rojava, mais...
La plaque, c'est... Non, c'est représentation du Rojava en France.
Allez, on va dire que vous avez raison, Patrick Franceschi. Qu'est-ce que ça vous inspire, en tout cas? C'est quand même le signe d'une reconnaissance politique, diplomatique de ces Kurdes syriens.
Écoutez, vous auriez dû venir au moment de l'inauguration, c'était un travail de longue haleine qui a été bien mené. Qui fait que les Kurdes de Syrie, de Rojava, maintenant il faut parler de Rojava, c'est-à-dire vraiment la partie nord de la Syrie, proclamée autonome de fait, sous forme de fédération, elle a maintenant la possibilité de s'exprimer de manière un peu plus officielle, mais tout de même encore officieuse, à Paris. Il faut lire entre lignes. Donc tout cela est aussi une avancée politique et diplomatique des Kurdes de Syrie, qui ont réussi, grâce à la bataille de Kobané pour revenir à elle, à peser internationalement et plus seulement régionalement. On se rend compte maintenant qu'ils comptent, que Daesh ne sera pas vaincu sans les Kurdes de Syrie, ni ceux d'Irak d'ailleurs, et que par conséquent, il faut leur laisser un petit peu de place, à la fois dans les négociations futures, il faut l'espérer, et en même temps, quand ils veulent s'exprimer de manière officielle. Mmh. Voilà ce que veut dire l'inauguration du 23 mai.
Merci beaucoup, en tout cas, Patrice Franceschi, d'avoir été avec nous. Mourir pour Kobané, et ça je suis sûr du titre, hein, Mourir pour Kobané, qui était paru aux éditions de l'Équateur. Un grand merci d'avoir été avec nous en direct ce matin, Patrice Franceschi. On va retrouver un nouvel invité, c'est Joseph Arotin. On va quitter un peu la région pour aller du côté de l'Afrique, et en particulier du Nigeria, mais aussi de l'ensemble de la région. On va parler de Boko Haram. Bonjour Joseph Arotin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes politologue et chercheur au Centre d'analyse et de prévision des risques internationaux. Vous êtes par ailleurs enseignant à l'école de guerre de Yaoundé au Cameroun et rédacteur en chef de Défense et Sécurité Nationale. On sait que Boko Haram a été l'un des premiers groupes armés à prêter allégeance à l'État islamique. Plusieurs questions. Comment est-ce qu'on peut définir l'action de Boko Haram? Est-ce que c'est de la guérilla? Est-ce que c'est du terrorisme? On évoquait tout à l'heure justement cette analyse dans les rapports de force avec Philippe Migaud. Quel point de convergence, de divergence aussi avec l'action menée par l'État islamique justement en Irak et en Syrie? Et puis plus généralement, quelle est sa relation au djihadisme finalement? Joseph Arotin.
Alors, ce sont d'excellentes questions qui mériteraient quelques thèses de doctorat, mais pour synthétiser, grosso modo, les dynamiques entre l'État islamique et Boko Haram sont des dynamiques très très différenciées. C'est-à-dire que, pour ce qui concerne plus particulièrement Boko Haram, on a affaire à ce qui est à la base une bande itinérante quelque part entre le djihadisme et le brigandisme, sur lequel viennent se greffer de vieilles rancœurs locales ou ethniques, etc., avec une capacité de production doctrinale, donc de production de réflexion liée au djihadisme qui est très inférieure à ce qu'on observe avec l'État islamique. Donc les facteurs de mobilisation, si vous voulez, de l'entité armée, ces facteurs-là sont plus faibles, ils sont moins denses. Ce qui produit, de ce point de vue-là, une entité qui est quelque part plus fluide, qui s'apprécie, qui s'appréhende beaucoup moins facilement. C'est-à-dire qu'on voit que dans un certain nombre de cas, par exemple, les forces de sécurité des pays de la région ne sont pas nécessairement très très au point pour les opérations de contre-insurrection, vont terroriser dans un certain nombre de cas les villageois qui vont rejoindre en fait Boko Haram. Et ça, ce type de phénomène-là, on l'observe beaucoup moins ailleurs. Simplement.
Et d'ailleurs, je me dis, terroriser justement les populations locales, justement, Joseph Arotin, c'est totalement l'inverse de la stratégie déployée par l'État islamique. C'est-à-dire pour permettre justement l'émergence de ces petites poches dont on parlait avec Philippe Migaud tout à l'heure, il faut prendre le cœur et les esprits des populations locales. Là, pour Boko Haram, c'est tout à fait l'inverse.
Alors, c'est tout à fait l'inverse, mais en même temps, chez Boko Haram, si je puis m'exprimer ainsi, on en revient un petit peu aux fondamentaux, c'est-à-dire qu'est-ce que recherchent les gens d'abord et avant tout, c'est la sécurité. Et donc parfois, entre la sécurité offerte, toute relative bien évidemment, par Boko Haram, et puis la sécurité offerte par les États de la région au vu de l'action de leurs forces armées, ben, on s'aperçoit que du coup, voilà, les gens peuvent avoir à hésiter, peuvent avoir à rejoindre en fait le camp le plus violent, hein, le camp de Boko Haram. Donc ça, c'est assez particulier. Autre différence entre, quand on examine les interrelations entre l'État islamique et Boko Haram, mais on s'aperçoit surtout que les liens entre les deux organisations sont assez distendus. En fait, ils sont dans une logique gagnant-gagnant. Ça permet à l'État islamique de dire « Regardez, on a une emprise en Afrique, au cœur de l'Afrique. » Ça permet de dire, du point de vue de Boko Haram, « Regardez, on a affaire à des gens très très puissants de l'autre côté de la mer Rouge. » Mais bon, voilà, concrètement, ce n'est pas l'État islamique qui va envoyer une colonne blindée qui va permettre d'aider les gens de Boko Haram qui se font taper dessus par les armées locales. Hein. Mmh. Donc pratiquement, on est dans des logiques qui sont d'ordre beaucoup plus politique, au sens politicien du terme, que dans des logiques d'ordre idéologique ou même dans des logiques d'ordre stratégique.
Encore un point, et puis je donnerai la parole à Philippe Migaud, mais s'agissant justement de la réponse des États, parce qu'on sait que Boko Haram agit, je le disais, au Nigeria, mais aussi parfois franchit les frontières et mène des actions dans d'autres pays, au Niger, au Cameroun, au Tchad, donc ces pays-là se sont alliés justement dans cette lutte contre le terrorisme. On se souvient de la célébration il y a quelques temps du président tchadien Idriss Déby qui affirmait que Boko Haram était définitivement hors d'état de nuire, ce qui semble quand même un tout petit peu un désaccord quand on voit l'actualité. Il y a moins de 3 jours, on a au moins 10 combattants de Boko Haram qui ont été tués à Bosso, dans une localité du Niger, pas très loin de la frontière avec le Nigeria. Est-ce qu'on n'a pas crié un peu victoire trop tôt? Et puis plus généralement, quel regard vous portez sur la réponse des États de la région dans la lutte contre Boko Haram?
Alors, on a, je pense, effectivement crié victoire trop tôt, simplement parce que Boko Haram sera un phénomène très résilient, c'est-à-dire que même si le gros de l'organisation, entre guillemets, est démembré, les phénomènes qu'elle porte de brigandisme, l'opportunisme politique dont elle joue sur du point de vue des frustrations des uns des autres, etc., lui, il restera. Et de ce point de vue-là, on rejoint la question de l'action des États. Ces États doivent réapprendre les élémentaires et les fondamentaux de la contre-guérilla et de la contre-insurrection. Et c'est pas évident du tout, parce qu'on a affaire à des armées qui sont relativement petites en termes de taille, qui doivent opérer sur des territoires très grands et des territoires pas évident, hein. Voilà, le nord du Nigeria, c'est assez forestier, etc. Progresser là-dedans, c'est pas nécessairement évident. Avec parfois des dynamiques internes à ces armées, issues de l'histoire même de ces armées. Dans le cas du Nigeria, on se souvient tous que l'histoire a été assez tourmentée. Et du coup, pour obtenir un brassage social au niveau des armées, eh bien, on envoie des gens du sud combattre dans le nord, alors qu'ils ne maîtrisent pas tous les codes culturels, tous les codes politiques, etc., etc. Et ça stresse les populations. Donc voilà, on en revient à des choses ultra fondamentales et finalement très simples, du moins théoriquement, mais très difficiles à mettre en pratique. C'est qu'il faut réussir à comprendre et à connaître les populations dans lesquelles on va opérer. Et ça, c'est pas évident du tout. Et historiquement, tous les processus de contre-guérilla et de contre-insurrection, même s'ils peuvent être victorieux, tous ces processus-là prennent du temps. Voilà. Et donc commencer à sortir avec des annonces comme quoi Boko Haram est hors d'état de nuire, etc., etc. Politiquement, c'est tout de même très très hasardeux, parce qu'évidemment, à la première occurrence d'une contre-offensive, voilà, on est pris en défaut.
Bon, voilà, c'est de la politique politicienne. C'est un message à l'adresse de son opinion. Voilà. Philippe Migaud, réaction sur ce cas nigérian de Boko Haram, où on voit la stratégie est assez différente finalement de celle qu'on a pu observer en Irak et en Syrie.
Que les arguments qui ont été tenus sont parfaitement exacts. Je rajouterais une chose, c'est que le modèle de Boko Haram, c'est le sultanat de Sotoko qui a été instauré par le djihad au 19e siècle. C'est pas cette vision du djihad global que peut aussi représenter aujourd'hui l'État islamique. Pourquoi Boko Haram se rallie à l'État islamique? Pour un besoin de visibilité. On voit très bien que la propagande que diffuse Boko Haram, qui est de bien meilleure qualité, c'est pas dans l'État de Maïdiguri et du Borno que ça va convaincre les populations locales qui n'ont pas Internet. Donc c'est adressé à l'ennemi. C'est montrer qu'on ait une capacité de puissance et qui est aussi une manière de résister à ces offensives qu'ont mené les pays du G5 et qui ont eu des résultats. On est passé d'une phase de guerre à une phase de guérilla pour Boko Haram, qui s'est réfugié dans ses territoires traditionnels. À côté de ça, ils ont encore des résultats parce qu'ils terrorisent les populations locales. Il y a de ça 15 jours, ils ont tué une centaine de soldats nigérians. Les soldats nigérians sont des gens en règle générale du Sud qui ne comprennent pas et qui ne s'expriment pas dans le langage des populations du Nord, qui les comparent souvent à des forces d'occupation. Donc tout ça est compliqué. Par contre, on voit bien que les opérations offensives en direction du Cameroun, du Niger et du Tchad, aujourd'hui, elles ont réduit.
Allez, une toute dernière question qui finalement pourrait faire office d'une ouverture pour une prochaine émission. Joseph Henrotin, vous qui êtes enseignant à l'école de guerre de Yaoundé au Cameroun, est-ce que vous avez l'impression que les responsables politiques de la région sont à l'écoute des spécialistes, des experts qui analysent justement cette situation, ou est-ce que vous avez plutôt une impression de responsables très hermétiques finalement à tout ça? Joseph Henrotin, en quelques mots.
Conférencier extérieur, hein, voilà, ouais. Donc je ne représente pas le...
Non, j'entends bien, mais vous voyez des signes aussi sur le terrain, bien sûr.
Alors, il y a effectivement des signes. Il est évident qu'il y ait une prise en compte au niveau politique et ainsi de suite. Et pour parler de l'ESIG, il y a quelques semaines de cela, il y a eu un colloque sur la défense, ce que le Cameroun appelle la défense sociale. Donc là, le fait d'utiliser, si vous voulez, les villages comme système de capteurs par rapport aux choses. Et on voyait des responsables politiques, hein, notamment l'Amido de Kolo Fata, qui depuis des années est tout à fait préoccupé par la situation et qui s'occupe. C'est la même chose au niveau des capitales. Donc si on quitte l'angle régional pour revenir à un angle plus large. Maintenant, il est évident que réformer des armées pour pouvoir leur faire mener des contre-insurrections, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Alors, il y a une coopération internationale. Les Américains, notamment, ont déployé des grands drones, en fait, à Yaoundé, qui permettent de faire de la surveillance et qui apportent une capacité que les armées locales n'ont pas. La France apporte des capacités de formation, notamment via les ZIG. Donc voilà, maintenant les armées sont des machineries qui sont très très complexes. On parle de dizaines de milliers d'hommes, hein. Donc voilà, il faut réformer toute une culture et ainsi de suite. Et évidemment, il ne suffit pas d'avoir la volonté, il faut aussi avoir le temps.
Merci beaucoup, Joseph Enrotin, en tout cas, d'avoir été avec nous ce matin. Vous, Philippe Migaud, qui participez justement à ce grand colloque, colloque international organisé par l'Observatoire des radicalisations de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme et l'Institut Montaigne, qui se tient en ce moment à Paris, vous avez le sentiment que vos voix arrive jusqu'aux oreilles de nos responsables politiques?
Oui, c'est clair, parce qu'il y a une recherche des autorités politiques à s'adapter en permanence à une situation qui est évolutive. Je crois qu'un autre exemple, ça peut être montré par le fait que l'État islamique, à la suite des bombardements, a adopté une autre position à l'égard des volontaires étrangers, en leur disant, à partir de septembre 2014, si vous ne pouvez pas venir dans le sanctuaire syro-irakien, frappez sur place. C'est le fameux discours de Mohamed Al-Anani, si vous croisez un méchant et sale français, prenez un couteau, égorgez-le, prenez une pierre, mettez-lui sur la tête, prenez votre voiture, écrasez-le, puis si vous n'y arrivez pas, étouffez-le, étranglez-le, jetez-le dans le vide. Donc on est aujourd'hui dans une volonté de créer des groupes extérieurs qui combattent au nom de l'État islamique, et vous avez toute une série de gens qui ne sont pas automatiquement des convaincus, mais des esprits fragiles, qui sont capables de se donner un destin, soudain, au nom de l'État islamique, alors que hier, ils auraient commis un acte de forcené ou de violence simple.
Merci beaucoup, en tout cas, Philippe Migaud, d'avoir été notre invité ce matin. Je rappellerai le djihadisme, le comprendre pour mieux le combattre, auquel vous aviez participé, qui était paru chez Plon. Je rappelle également le titre du livre de Patrice Franceschi, Mourir pour Kobané, et je fais mon mea culpa, il a raison, le nom officiel, c'est Représentation du Rojava en France. Mea culpa, Patrice Franceschi, vous aviez raison, mon cerveau me fait défaut.